Eh bien, bonjour à tous. Si vous nous retrouvez sur Fréquence Mistral, et bien sûr, bonjour à notre invité qui aujourd'hui est Jacques Meurant. Bonjour.
Bonjour, Odile.
Alors, Jacques Meurant, vous êtes vice-président de la Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence. Et expliquez-nous un peu plus ce qu'est la. D'abord, vous-même, vous présentez vous-même.
Alors, moi, je suis à la fois un vieux et un nouveau Dinois, puisque. Comme je le dirai plus tard, je suis arrivé à Digne en 1941, j'avais un an. Et j'y suis resté pendant toute ma vie d'écolier puis de lycéen, et je suis parti lorsque j'avais passé mon bac, c'est-à-dire 1958, si je me souviens bien. Et je me suis éloigné de Digne pendant très longtemps. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu surtout en Alsace. Et lorsque j'ai pris ma retraite d'avocat et d'enseignant de la faculté de droit, je suis revenu à Digne, où je me sens tout à fait à l'aise et très heureux de retrouver cet environnement, ces montagnes que j'ai connues enfant et jeune homme.
Alors, la société scientifique et littéraire, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est ce qu'on appelait autrefois une société savante, qui réunissait des notables, des intellectuels d'une région, d'un département. Et il se trouve que la société scientifique et littéraire, qui s'appelait des Basses-Alpes autrefois, a été créée il y a très longtemps, aux environs de 1870. L'association existe depuis cette date. Et elle a eu comme parmi les premiers adhérents et parmi les premiers présidents l'abbé Ferraud, qui est une grande figure de Digne. Et cette association, cette société scientifique, depuis 1830, édite deux bulletins par an dans lesquels toutes les personnes qui le souhaitent peuvent fournir des articles, mais ce sont souvent des articles scientifiques ou qui traitent d'histoire ou qui traitent d'autres sujets. C'est très, très varié, mais la bibliothèque ainsi constituée représente une richesse sur le plan départemental exceptionnelle, quelque chose qui n'existe sans doute pas ailleurs. Et il se trouve que lorsque je suis arrivé à Digne, j'étais adhérent de cette société, j'ai été invité à me présenter et j'ai été élu vice-président, notre président Christian de Cory étant lui chargé donc de l'organisation, de la réalisation de tous les travaux d'édition. Et nous formons une très jolie équipe avec surtout des dames qui sont membres du bureau, et nous sommes aussi une association dans laquelle les femmes ont la majorité dans le conseil d'administration. Alors, il se trouve que la société scientifique et littéraire a des actions annuelles, comme des visites archéologiques qu'elle organise, mais elle a surtout donc la publication, elle publie chaque année deux bulletins, dans lesquels on retrouve donc ces textes, ces divers articles. Il y a par exemple dans le dernier bulletin un très bel article sur la réserve géologique et la dalle aux ammonites. Il y en a d'autres. Et puis, depuis une dizaine d'années, elle organise des conférences qui se tiennent chaque premier mercredi du mois, sauf pendant les vacances, évidemment. Et donc, c'est une association qui est la plus ancienne donc du département actuellement et qui fonctionne bien et qui permet de s'intéresser à la culture régionale, départementale, à la vie du département de manière très complète. Et donc c'est une association qu'il faut continuer à faire vivre.
Et donc, justement, c'est cette association qui a permis, vous allez organiser une conférence en hommage à Pierre Magnan, écrivain bien connu du département. Parlez-nous un peu de Pierre Magnan.
Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne cet hommage, Nous avons décidé, dès la mort de Pierre Magnan, dès après le 28 avril 2012, nous avons décidé de lui rendre cet hommage parce que nous pensons que c'est particulièrement mérité. Il se trouve par ailleurs que j'ai eu la chance de connaître Pierre Magnan pendant un peu plus de 30 ans, dans des conditions tout à fait particulières au début. Et si je n'ai jamais eu le courage de le tutoyer ni de l'appeler Pierre parce que j'avais trop de respect pour lui, il n'en demeure pas moins que c'est devenu un merveilleux ami, un homme avec lequel j'ai eu plaisir à discuter. Et donc nous avons, je crois, nous justifions amplement l'intérêt que nous portons à Pierre Magnan par la qualité de l'œuvre qu'il a composée, qu'il a publiée tout au long de sa vie. Alors, un mot sur la découverte de Pierre Magnan. J'étais à cette époque, c'est en 1980 ou 1981, mais je crois que c'est 80, je venais d'animer un séminaire de droit dans la belle ville de Tours, et sur le quai de la gare, j'ai acheté mon premier Magnan. Et j'avais été extrêmement frappé parce que sur la première page de ce roman, il y avait ceci, je vais essayer de vous le lire, voilà. C'était une nuit du dimanche au lundi. Entre les bruits de la Bléone sur ses galets et celui du torrent des eaux chaudes, Digne dormait dans le calme. C'est ce roman qui s'intitule Le sang des Atrides et qui a eu le prix du Quai des Orfèvres en 1978. Et l'on trouve ensuite cette phrase ou cette série de phrases, c'est en bas de page, je m'en souviens parfaitement. À 4 heures, sorti de son enclos la benne municipale, il fallut aux éboueurs une heure ponctuée de sifflements stridents, de poubelles rejetées, de broyeurs emballés, d'arrêts et de départs pour atteindre la rue prête à partir. Or, il se trouve qu'en 1941, quand je suis arrivé à Digne, j'ai vécu avec ma famille au numéro 9 de la rue prête à partir. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je connaisse cet écrivain. Je lui ai écrit par l'intermédiaire de son éditeur et quelques jours après, j'ai reçu cette lettre que j'ai perdue, mais dont je me souviens, dont je me rappelle de la première phrase. Il disait « Mon cher Jacques Meurant, comme vous devez vous ennuyer dans cette Strasbourg si loin d'ici. » Et ça a été le début d'une correspondance. Puis nous nous sommes rencontrés. Et nous sommes rencontrés pendant 30 ans, ou 32 ans à peu près.
Ah oui, c'est donc vraiment quelqu'un que vous connaissez bien.
Oui, à la fois que je connais bien, mais que je sans doute que je le respectais beaucoup trop, en ce sens que je n'ai pas forcé sur cette amitié. J'étais toujours très respectueux, et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pris suffisamment de notes à l'issue des rencontres que nous avions, des discussions que nous avions. Mais c'est vrai que c'était fructueux. Et je vais vous donner une anecdote. Il m'a fait la confidence que l'on ne retrouve pas dans ses œuvres, dans sa biographie, que c'est à l'âge de 12 ans qu'il a écrit son premier roman, mais il disait bien qu'il a plagié le roman d'autrui, puisqu'il avait découvert, dans une revue, il avait découvert un roman d'Agatha Christie qui s'intitulait, je ne sais plus, le titre me reviendra, il l'a purement et simplement recopié en changeant parfois une ou deux phrases. Et il me disait que cette envie d'écrire qui lui avait pris, donc si jeune, l'avait conduit à ne pas hésiter, au fond, à simplement recopier un roman comme si c'était lui qui l'avait fait. Et la seule chose, dit-il, c'est qu'il n'avait jamais réussi à trouver un nouveau titre. Voilà une anecdote intéressante, parce qu'on ne la retrouve pas dans sa biographie. Et je regrette maintenant de l'avoir laissé partir sans avoir eu l'occasion d'écrire davantage sur ce qu'il me disait et également sur son extraordinaire relation avec Jean Giono, car il a été très très proche de Giono.
Qui est aussi quelqu'un que vous admirez beaucoup dans son œuvre.
Oui. D'ailleurs, je dois dire qu'au début, je suis venu voir Pierre Magnan à cause de La rue prête à partir, et puis aussi pour savoir davantage de cette relation avec Giono. Alors, je suis allé le voir dans ce qu'il appelait son pigeonnier, puisque c'est à partir de 1975-76 qu'après un long périple, il est revenu dans la région, donc à côté de Fort-Calquier. Et nous discutions donc souvent. Et puis, je l'ai revu lorsqu'il était à Fort-Calquier. Et enfin, je l'ai rencontré pour la dernière fois le 2 mars 2012, c'est-à-dire presque 2 mois avant sa mort. Mmh. Et je garde bien sûr de lui un souvenir merveilleux, mais surtout, je voudrais que l'hommage que nous allons lui rendre permette de rappeler à quel point c'est un écrivain de valeur. C'est une personne qui était d'une immense modestie, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer.
Comme sont souvent les grands artistes.
Peut-être, oui. Oui. Il écrit quelque part, mais je ne sais plus où, mais là, il ne faut absolument pas le croire. Il écrit « Je suis un auteur superficiel ». Et c'est faux. C'est faux parce que la lecture de ses nombreux romans permet de dire le contraire. Alors, extrême modestie, et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit que pour écrire, il faut être d'une extrême modestie et il faut également, être d'une extrême lucidité. Et quand on le côtoyait, mais on peut le retrouver dans ses livres, il avait une formule qu'il adorait. Il me disait toujours, vous voyez, cher Jacques, il faut regarder les choses du point de vue de Sirius. C'est sa formule. Or, il a défini ce que c'était que ce point de vue de Sirius. C'est, disait-il, adopter un point de... C'est regarder les événements de si loin, avec tant de recul, qu'on ne peut pas prendre parti. Cela revient à considérer les hommes, la Terre et notre système solaire comme une chose secondaire. C'était donc ce point de vue de Sirius qu'il prônait. Et il disait, je vais vous citer là une phrase de lui, une phrase écrite, « Je suis atteint d'une incuriosité totale pour le reste du monde. » Alors, c'est peut-être cette modestie qui a fait qu'on le range exclusivement parmi les auteurs de romans policiers. Alors, c'est vrai qu'il a écrit des romans policiers, mais pour moi, sur les 31 ouvrages publiés, il n'y en a que 9 qui répondent réellement à la définition du roman policier. Il a expliqué assez récemment, mais je crois que c'est... J'y reviendrai éventuellement. Il a expliqué comment il en était arrivé à écrire un roman policier. Le premier, puis les autres. Alors, il explique qu'il est jeune. Il a donc fait la connaissance de Giono, qui lui fait découvrir sa bibliothèque immense. Et puis, Giono lui fait connaître un personnage extraordinaire, dont on parle pratiquement plus, qui est l'écrivaine Tidemonier. Tidemonier qui a beaucoup de succès entre les deux guerres et puis un peu après la guerre, puis qui va être oublié. Tidemonier se prend d'affection pour lui, pour Pierre, et elle va l'aider également à découvrir la littérature en lui prêtant des ouvrages. Et elle va l'aider aussi à sortir de sa vie d'ouvrier typographe. Et lorsqu'il a 18 ans, il le dit, et il l'a toujours dit, et c'est la vérité, le 12 novembre 1940, il devient son amant. Il a 18 ans, elle en a 53. Mmh. Et ils vont vivre pendant une dizaine d'années ensemble. Et Tid va le pousser à écrire. Elle va l'aider parce qu'elle connaît beaucoup d'éditeurs parisiens. Et il va donc réaliser cette première partie de sa vie littéraire avec des textes qui ne sont plus connus. Même certains ont été réédités, mais la plupart ne le sont pas. C'est 5 romans. Le premier, qui s'appelle L'aube insolite, a du succès. Les autres n'en ont pas. Mmh. Et il quitte Tid Monnier vers 1950. Et il va être employé comme modeste employé dans une société de transport frigorifique à Nice. Il y restera 26-27 ans. Et pendant cette période, il ne publiera plus rien. 1975-1976, dans le train, car il a été nommé pendant quelque temps à Paris avant son licenciement, dans le train, sur un agenda, il écrit un nouveau roman, il l'envoie à Fayard, tout à fait par hasard, et Fayard lui permet d'avoir le prix du quai des Orfèvres, 1978. C'est son retour à la littérature, et c'est à nouveau le plaisir. Il arrête de travailler, d'ailleurs il est mis à la porte, il arrête de travailler, il revient dans ses basses Alpes et il écrit donc ses romans dans lesquels on voit apparaître ce personnage haut en couleur, le commissaire La Violette. Et il en écrira donc 8 de plus après Le sang des Atrides. Il me disait toujours que celui qu'il avait préféré parmi ses romans policiers, c'était Les courriers de la mort. Alors, Les courriers de la mort, c'est intéressant puisque ça se situe exclusivement à Digne et dans les clus de Barle et à Barle. Mmh. C'est un très beau roman policier avec une intrigue qui est assez bien menée, qui a donné lieu à un film qui n'est pas mauvais. Et il aimait ce texte, il l'aimait beaucoup, qu'il a dédié à une dinoise que j'ai bien connue, qui s'appelait Domnine Picot. Et voilà, donc, si vous voulez, son parcours, un petit peu, hein, très rapidement dit. Alors, voilà, cet auteur que l'on place dans la catégorie des auteurs de romans policiers. Mais il a écrit beaucoup d'autres choses, et notamment de très, très beaux romans.
Vous avez vraiment tout lu de...
Oui. Ouais. Oui, 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 mm-hmm. Absolument tout. Bien sûr, j'aimerais en relire parce que chez Pierre Magnan, il y a une chose qui me prenait. C'est l'énigme, vous voyez. On veut savoir qui a tué, ou on veut savoir quelle est la fin de ce roman assez extraordinaire. Je regrette, parfois j'en ai lu trop vite, mm-hmm. trop avide que j'étais de connaître la fin. Et je voudrais recommencer. Donc il y a ces romans policiers, ces romans proprement dits, avec un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est Laure, qui s'écrit L-A-U-R-E, du bout du monde. Pierre Magnan a un jour entendu une dame de rencontre lui parler de ce qu'elle avait vécu, de cette enfance qu'elle avait vécue dans les Hautes-Alpes, et il en a fait un roman extraordinaire parce qu'il l'a écrit vers les 80 ans. Et si vous lisez ce texte, vous vous posez la question, est-ce un homme ou est-ce une femme qui a écrit cela?
Ah oui.
Voyez, tellement il y a mis de sensibilité, et c'est vraiment le texte que je préfère actuellement de lui, vous voyez. Et puis, il a écrit alors une autobiographie. Depuis sa naissance jusqu'en 1976-77, date de son licenciement, et cette autobiographie est merveilleuse, et on y découvre énormément de l'auteur. Par exemple, on y découvre sa vision de son lecteur, ce qu'il pense, le lecteur auquel il s'adresse. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Est-ce que vous vouliez nous lire encore quelque chose qu'il a écrit ou on garde ça pour...
Oh, je peux vous lire simplement ce que je disais, c'est-à-dire comment il voit son public.
Oui.
Il dit « Je ne réclame pas l'adhésion des intellectuels, je ne vise pas une élite, mais une honnête moyenne de lecteurs ayant envie de profiter de la vie et curieux de celle d'autrui. » Et il ajoute « Je ne cherche pas le lecteur de Giono. » Alors, je vous cite également la suite, un petit peu plus loin. « Les auteurs d'aujourd'hui écrivent des livres de professeurs. Mon ambition inavouable a toujours été d'écrire un livre d'instituteur. » On voit la modestie et puis on voit quand même la qualité du style. C'est vrai que Pierre Magnan a un très beau style. Giono lui disait toujours « Fais des phrases courtes, évite les adjectifs. » Et c'est vrai qu'il a souvent respecté cette règle du romancier.
On va faire une petite pause musicale, oui. Et puis on se retrouve juste après. Et peut-être, est-ce qu'on peut déjà donner le rendez-vous pour cet hommage à Pierre Magnan?
Oui.
Alors, ce sera mercredi 5 décembre 2012, bien sûr, à la salle de l'Abbé Ferro. Et c'est à 18h15. C'est dommage, c'est un peu tôt quand même.
Oui, c'est vrai.
Mais bon. Hommage à Pierre Magnan, souvenir de la vie et de l'œuvre de Pierre Magnan, par Jacques Meurant, vice-président de la Société scientifique et littéraire. Ce sera suivi d'un film, Pierre Magnan, je me souviens de Giono, réalisé par Jacques Méni, membre du conseil d'administration de l'Association des Amis de Jean Giono, avec le soutien de la ville de Digne-les-Bains et la participation de la librairie La Ruelle. L'entrée est libre. Et voilà, donc on va faire une petite pause musicale et peut-être après on va parler un peu de vous.
Volontiers.
J'ai vu comme un trou, mec, au son du sirtaki. Et vas-y du raki jusqu'à suer l'anis, sentez bon ma pisse et mes larmes aussi et ma crache aussi pour celle qui m'a trahi, Hélène qui est partie. J'ai roulé sous la table, le patron très aimable m'a bien botté le cul et jeté à la rue. Y a pas de place dans ce monde pour celui qui pleure sa blonde. Y a pas d'orphelinat. Sans inquiétude, ma serviette au casier, mon pyjama plié. Le matin qui sent le café, et le parfum qu'elle mettait, les sorties le week-end, tu m'aimes qu'elle demande. Vraiment ce qu'on était bien, manquait jamais de rien, même qu'on se faisait des projets, de maison à acheter. La masse. n'en m'y reprendra plus. En voilà un de plus au club des cœurs brisés. Maintenant accoutisé, quand j'aurai bu la coupe de cette affreuse soupe, sûr que je serai plus un môme, mais cette pauvre chose un homme, quand j'aurai bu la coupe.
Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3, il est 17h26. Et nous retrouvons, après cette chanson de, chantée par Serge Villard qui s'appelle « À la santé d'Hélène », écrite par Paul Huet, un artiste de Digne, nous retrouvons notre invité Jacques Meurant qui est venu donc, nous parler de l'hommage qui sera rendu à Pierre Magnan mercredi 5 décembre à 18h15 avec une conférence de Jacques Meurant suivie d'un film. Jacques Meurant, vous souhaitez nous lire avant de passer à votre... à vos œuvres, à vous, nous dire quelques mots de Pierre Magnan encore.
Oui, je voulais vous dire que si cet hommage est rendu à Digne, on le lui doit bien, puisque le premier roman que j'ai cité tout à l'heure, Le sang des Atrides, qui a eu beaucoup de succès, se passe exclusivement à Digne, et que Pierre m'a toujours dit, m'a toujours affirmé, que Digne, c'était la ville dans laquelle il aurait aimé naître. Et il aimait cette ville, il la connaissait parfaitement bien, il en connaissait les environs. Et voilà ce qu'il écrit en 1996. « J'ai été depuis longtemps hanté par la ville de Digne et par la somme de temps que représente autour d'elle sa couronne géologique. » Il ajoute, ce qui me plaisait beaucoup, « Aucun Dinois ne peut vivre longtemps loin de la barre des Dourbes sans devenir lyrique ou désespéré. » Et il me demandait toujours comment allait le Fujiyama des Dinois, c'est-à-dire le Cousson. Il désignait l'Estro comme étant notre Everest basalpin. Vous voyez, donc, il était très attaché à la ville de Digne, et ça me fait très plaisir qu'on lui rende cet hommage ici. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, maintenant, je suis à votre disposition.
Alors, maintenant, on va parler un peu de vous, parce que vous êtes quand même aussi une personnalité à mieux découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être pas encore. Quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, après mes études universitaires, j'ai fait des études de droit. J'ai été d'abord fonctionnaire des impôts à Paris. J'étais inspecteur. Vérificateur, je m'ennuyais beaucoup.
Ça fait toujours peur, ça. Hein?
Oui, c'est vrai.
Inspecteur des impôts, c'est quelque chose.
Oui. Je disais toujours, il y a deux personnes qu'on interroge au cours d'un repas, l'inspecteur des impôts et le médecin. Et j'ai eu cette chance de poursuivre à Paris, dans les universités parisiennes, de poursuivre des études. Et ça m'a permis d'intégrer la faculté de droit de Strasbourg, donc de sortir de l'administration des impôts. Et puis, très rapidement, j'ai été mangé par une double activité. C'est toujours donc, l'université, la fac de droit, où je n'ai pas été un brillant universitaire. J'ai été chargé de cours. Et puis, la profession d'avocat que j'ai menée, d'avocat fiscaliste que j'ai menée de 1975 ou 16, je ne sais plus, jusqu'en 2006. Et peut-être que cette situation de fiscaliste qui m'a conduit à écrire une quarantaine de textes, d'articles de droit, peut-être que cela m'a conduit à m'intéresser beaucoup à la littérature, à Jean Giono, bien évidemment, à Pierre Magnan, bien sûr, et puis à d'autres auteurs, et puis de tenter moi-même un petit peu de faire quelque chose. Et
vous avez écrit Ravine avant de d'être saisi de la passion des œuvres de Giono.
Non. Non, mais c'est vrai, Pierre Magnan a raison, je ne m'ennuyais pas en Alsace, mais j'étais nostalgique. Mm-hmm. Et à un moment de ma vie, j'ai souhaité écrire un texte qui me rappelle mes Basses-Alpes, qui me rappelle Digne. J'ai commencé par faire un texte qui était purement descriptif de ce que j'avais connu quand j'allais me promener du côté du Cheval Blanc. Et subitement, j'ai eu envie de mettre en scène des personnages à qui j'ai donné des noms inventés, et l'histoire s'est imposée à moi. Et je me suis demandé, alors cette histoire, c'est la dernière phrase, si vous voulez, que j'ai écrite. Il se trouve que entre guillemets, le héros se pend dans une grange d'un petit hameau autour de Digne, et j'ai voulu savoir pourquoi il s'était pendu. Et j'ai écrit donc tout cela pour savoir quelle avait été la vie de ce jeune homme qui était à la fois un proche et très éloigné de moi.
En fait, alors, vous êtes parti avec une idée de base, et après c'est venu comme une écriture automatique.
C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'ai écrit ce que je voyais et qui n'était pas ce à quoi j'avais songé, puisque je voulais simplement faire le récit de par exemple des promenades que j'avais menées dans au-dessus de Digne, au Pic de Coire, etc. Et au fur et à mesure, il y avait des personnages qui arrivaient, et notamment ce garçon Gabriel Pascalis, qui est un paysan, qui va avoir une existence d'abord de paysan, qui va se marier, et puis qui va rencontrer une jeune fille qui va bouleverser sa vie et qui va le conduire au suicide. Voilà. Donc, c'était au fond un peu comme une expérience, vous voyez, un petit peu. Mais il se trouve, alors pardonnez, là,
Pierre Magnan m'en voudrait. Vous avez pris du plaisir à l'écrire, mais vous avez été aussi, vous avez le plaisir d'être récompensé.
Oui, j'ai été, c'est vrai, j'ai été récompensé puisque j'ai eu un prix.
Eh bien oui.
Un prix littéraire qui m'a été décerné par une fondation qui s'appelle la Fondation... la Fondation des Arts et Lettres de France, quelque chose comme ça. Et ça m'a permis donc de l'éditer. Et puis, je dois dire aussi, grâce à mon banquier de l'époque. Voilà. Alors, j'avais soumis ce texte à Pierre Magnan. Et si vous voulez, tout à l'heure, quand vous le souhaiterez, je vous lirai la lettre qu'il m'a écrite fort gentiment. J'ai un peu honte par rapport au personnage qu'il est, à l'important personnage littéraire qu'il est.
Non, il ne faut pas avoir honte, il faut être au contraire flatté de quelque chose de mérité.
Elle date de 2002, lorsque il a reçu, il dit « Cher Jacques, votre livre est plein de charme et de poésie, vous avez eu bien raison de le faire éditer. » Alors, et puis il ajoutait, ça n'a plus rien à voir avec le livre, « J'espère que Strasbourg n'est pas trop dans les brumes. » Il craignait toujours que je m'ennuie à Strasbourg. « Ici, hélas, nous bénéficions d'un temps que les imbéciles trouvent beau, mais que sa persistance depuis 8 mois ne laisse pas de m'inquiéter. » C'est vrai que Pierre aimait les orages, il aimait la pluie, il aimait le vent, il aimait le soleil provençal, bien sûr, mais il aimait tous les éléments. Voilà cette lettre que j'ai gardée, celle-ci, et qui me rappelle ce temps où j'ai osé lui faire lire cette petite chose.
Quoi, voilà. Cette petite chose bien récompensée d'un prix littéraire. Ravine, vous avez écrit d'autres choses ensuite.
Oui.
Il n'y a pas très longtemps, vous avez publié Giono et le pacifisme.
Oui.
Et là, vous êtes en passe de publier un roman.
Oui, ça m'a repris.
Oui.
Je crois que ce ne sera pas bon parce que je suis plus à l'aise dans des textes courts. J'ai publié, et notamment dans la revue du Barreau des avocats de Strasbourg, j'ai publié des petites nouvelles. Cette fois-ci, lorsque je suis arrivé à Digne en 2006, début 2007, j'ai eu envie d'écrire un roman d'amour cette fois-ci. Et là encore, le personnage m'a échappé. Et comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas autobiographique, pas du tout. Mais ce personnage que j'aurais voulu être un amoureux exceptionnel est amoureux dans sa jeunesse et devient un homme qui ne présente plus aucun intérêt. Et c'est ça qui au fond, peut-être fait l'originalité de ce manuscrit, c'est le fait que cette dégradation, vous voyez, il le dit à un moment, il dit « je pourrais être un savant, je pourrais être un coureur à pied gagnant les Jeux Olympiques, je pourrais... » Il sent qu'il a toutes les capacités possibles et en définitive, il va finir lamentablement, pardonnez-moi, mais petit fonctionnaire à Angoulême, dans une ville qui, pour lui, ne présente aucun intérêt. Il a quelques amours hors mariage, mais qui ne sont pas intéressantes. Il a une épouse qui ne lui plaît pas. Enfin, c'est assez dramatique de voir cet homme qui, partant de ses 20 ans avec la découverte de celle qui donne le titre, qu'il appelle Préti, partant de là, devient quelqu'un de tout à fait, même pas ordinaire, quoi, de un pauvre type. Voilà.
Alors, ce qui est fou, c'est que c'est vous qui avez créé le personnage, mais vous avez été surpris de voir ce qu'il devenait, en fait. Vous avez été dépassé par celui qui s'est amené avec ce tempérament et cette... vous étiez presque déçu de ce qu'est devenu cet homme.
Oui, c'est vrai, parce que, comme j'avais noté au début, je voulais écrire un roman d'amour extraordinaire. Vous savez, par exemple, reprendre la Chartreuse de Parme avec un garçon et Clélia qui s'aimeraient follement d'amour jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça que j'aurais voulu faire. Et en fait, je n'ai pas pu. Alors, c'est curieux parce que j'avais même pris cette précaution de l'appeler, ce héros, entre guillemets, hein, de l'appeler Jacques, J-A-C-Q-U-S. Donc, en me disant, c'est un nom si proche du mien que je n'oserais pas le mener ailleurs.
Que parce que vous, c'est Jacques, mais C-A-C-K, voilà.
Oui, de l'amener dans la félicité de l'amour. Et pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, il trahit son amour de jeunesse très rapidement. Et puis, il va continuer. Et puis, à la fin de sa vie, il dit, il ne lit plus rien, il ne fait plus rien. C'est un peu un personnage lamentable, quoi. Sauf, c'est peut-être là, si vous voulez, que j'attends, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Après, je l'ai quitté. Parce qu'à la fin, il a cette phrase qui m'intrigue, puisque je ne le connais pas assez, il dit « Mon amour est absolument intact. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi dit-il ça? Et il ajoute « Je suis prêt maintenant, mon amour est absolument intact. » Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il va vivre maintenant quelque chose de plus lumineux, de plus exaltant et de plus noble? C'est possible, peut-être, mais j'en sais rien, puisque je l'ai abandonné.
Jacques Meurant, merci. Donc, on rappelle que ce livre va être publié aux éditions Parole Édition.
Oui, avec Jean, c'est exact.
Par Jean Darrault et qui devrait voir le jour en 2013.
Début de l'année 2013, c'est ce qui m'a été dit par Jean Darrault, effectivement.
Et ce sera votre deuxième livre publié aux éditions Parole, puisqu'il y avait Giono et le Pacifisme.
Oui, qui lui n'est pas un roman.
Voilà, bien sûr. Merci beaucoup Jacques Meurant et puis à très bientôt, on se retrouve le 5 décembre pour cet hommage qui se déroule où déjà?
À Digne, au Centre des Michels.
Centre des Michels.
À la salle Abbé Ferraud.
À 18h15.
Voilà. 18h15.
Merci.
Au revoir.